Miam Miam, une émission de Daniel Fazan et Jean-Charles Simon.
C'est le Miam Miam qui crève la dalle, sans trave que dalle. C'est le Miam Miam qui est suivi subitement, sournoisement. C'est le Miam Miam qui nous faut trop, c'est tropical pour être honnête. C'est le Miam Miam qui s'affiche à situer dans la ruelle.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Miam Miam, mini-magazine destiné à vous mettre l'eau à la bouche. Véronique Spinden, bonjour.
Bonjour Jean-Charles.
Chère Véronique, tous les pédagogues vous le diront, il est bon de répéter inlassablement les fondamentaux si l'on veut que le message s'inscrive durablement dans les mémoires. Aussi ce matin, je me permettrai, à l'intention de nos chers auditeurs, de faire un résumé de l'histoire de l'humanité. Comme notre émission ne dure que 20 minutes, il sera forcément succinct. Pardonnez-moi déjà si je me vois contraint à quelques raccourcis et approximations. Alors, je me lance. L'humanité est donc née quelque part sur les plateaux éthiopiens il y a bien quelques siècles. À cette époque, notre ancêtre Lucie avait déjà suffisamment de peine à marcher debout pour penser à faire de la cuisine. Aussi mangeait-elle des racines crues et des steaks tartares de bison ou de mammouth. Puis un peu plus tard, l'homme découvrit le feu et peu après le barbecue et la poule au pot. Pendant de nombreux siècles, manger chaud devint même un des critères du bien-être, sinon du bonheur, et une des premières revendications des pauvres. Puis vint la mode de la cuisson lente et l'on apprit à manger tiède. Et seuls désormais les SDF rêvent encore d'une soupe brûlante. Puis on inventa le micro-ondes et l'on se mit à manger mou. Et bientôt, comme on n'arrête pas le progrès, le rejet du CO2 devenant le souci principal de l'humanité, toute cuisson deviendra un acte réactionnaire, pour ne pas dire suicidaire, et l'homme reviendra pour se nourrir aux racines crues et aux steaks tartares tirés des carcasses d'animaux sauvages qu'on disputera aux vautours et autres charognards. La boucle sera donc bouclée et les derniers tenants du matérialisme historique définitivement ringards. Le terrain sera enfin préparé pour le retour, tant espéré, des dinosaures, bien entendu. Voilà, que pensez-vous de mon résumé, un peu succinct peut-être
Mais j'aime votre sens de la synthèse, Jean-Charles, oui. Et cette manière poétique que vous avez de résumer en un paragraphe environ 7 millions d'années. Oui. Mais en attendant les dinosaures, en tartare peut-être, ou en carpaccio, vous avez tout de même raison sur un point, Jean-Charles, les adeptes du manger cru sont de plus en plus nombreux. On le voit très bien, la multiplication des blogs, des sites, des restaurants, des traiteurs qui proposent de manger cru, mais aussi au cours, au coach, la création d'une journée mondiale de l'alimentation crue en octobre, aux rencontres informelles et désormais aux grands chefs qui entendent réinventer ainsi la cuisine, ou plutôt la cuisine.
La cuisine, bien sûr.
Et pour nous parler de cette nouvelle tendance, nous recevons aujourd'hui Amy Webster, coach en alimentation vivante ou crue à Morges. Bonjour Amy.
Bonjour.
Et aussi, pour évoquer la formidable créativité que suscite le cru, nous aurons le plaisir de bavarder avec Andrea Petrini à Lyon, qui est un des fondateurs du mouvement Cookie Troll. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Vous nous entendez? Oui, bonjour.
Allô, vous nous entendez Andrea?
Oui, tout à fait, très bien.
Parfait, merci.
Voilà, mais je vous propose peut-être de commencer par poser le décor avec Amy Webster. Vous ne dites pas nourriture crue, mais alimentation vivante. Alors pourquoi vivante et de quoi s'agit-il?
Excusez-moi, puisque nous parlons d'animaux et de nourriture crue, une information routière.
Infotrafic RTS.
Attention, un chevreuil est signalé sur l'autoroute Lausanne-Yverdon entre Chavornay et Yverdon. Faites preuve de grande vigilance si vous abordez ce secteur.
Voilà. Eh bien, revenons-en au chevreuil cru.
J'allais dire, ça tombe bien, le terme est peut-être un peu excessif.
Donc, nous en étions en définition, Amy, alimentation vivante, qu'entend-on par là? Quels bénéfices attendre d'une alimentation crue?
Alors, a priori, l'alimentation vivante ne se réfère pas nécessairement à la viande crue, mais c'est plutôt effectivement un concept qui se base sur une alimentation dont tous les nutriments étaient préservés. Or, la cuisson, on le sait bien, surtout à partir de 40 degrés, on détruit toutes les enzymes présentes naturellement dans les aliments. C'est pourquoi on préconise de ne pas cuire ou de cuire le moins possible. Et pour juste en revenir un petit peu à ce que disait Jean-Charles avant, par rapport à l'arrivée de la cuisson, etc. Je pense que si on en revient au cru aujourd'hui, c'est bien parce que notre civilisation a beaucoup changé. Et la nourriture qu'on nous offre aujourd'hui est vraiment appauvrie et ne répond pas vraiment aux besoins de l'homme aujourd'hui. Tandis que l'alimentation crue offre des nutriments, toute une vitalité qui permet de soigner énormément de problèmes.
Et quand je disais que donc, l'arrivée du feu et de la cuisson était quand même considérée comme un progrès dans l'histoire de l'humanité, le fait de revenir à la cuisson crue, c'est aussi un progrès ?
Absolument, ah absolument. Oui. Oui, c'est le résultat de nombreuses découvertes scientifiques qui ont été faites dans les 10-20 dernières années. Et aussi l'expérience de personnes qui mangent comme ça depuis pas mal de temps, qui ont réussi à se soigner de toutes sortes de maux dits de civilisation actuelle.
Alors on part de l'argument santé, hein, donc cuire dégraderait certains, cuire à plus de 40-42 degrés,
exactement.
Détruirait certains nutriments essentiels et qui facilitent aussi la digestion. Voilà, donc c'est l'argument santé, mais enfin c'est tout de même un régime assez privatif, hein, renoncer au pain, renoncer à la viande pour la plupart des gens.
Alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça et je le conçois bien. Moi-même, j'ai découvert ça en faisant une semaine de crue essentiellement, et ça m'a tellement transformée. J'ai commencé à vouloir chercher ce que ça signifiait et à tester des tas de recettes différentes. Et en fait, on se rend compte de l'abondance d'aliments qui sont présents dans la nature, dans les fruits, dans les légumes, dans les noix, les oléagineux, les graines germées. Il y a tellement de choses. Le but n'est pas de se priver forcément, mais d'introduire petit à petit les bonnes choses. Et vous verrez que les mauvaises vont tomber par elles-mêmes. On sera moins attiré par ces choses-là.
Mais vous dites que la nourriture crue est plus digeste. Moi, j'avais toujours entendu parler quand même que les crudités, au bout d'un moment, c'était quelque chose qui était difficile à digérer. Justement, ça provoquait des crampes,
des
ballonnements, etc.
Oui, vous avez raison. Et ça, c'est dû au fait que, de par notre alimentation très raffinée, très industrielle, nos intestins se sont ralentis, deviennent paresseux, ils ne fonctionnent plus de la manière idéale, et par conséquent, ils n'arrivent plus à vraiment digérer la nourriture qui nous est prédestinée. Si vous ne mangez que cru, vous verrez que la digestion se passe beaucoup mieux. Il y aura certainement un passage, une certaine transition, où ce ne sera peut-être pas facile tout de suite, mais ça demande un certain temps.
Un certain transit même.
Alors oui, un transit, effectivement.
Vous avez amené, émis un certain nombre d'échantillons de petites choses qui ont l'air très, très délicieuses à déguster. On va tester tout à l'heure, mais on va peut-être en venir tout de même à Andrea, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est Cook It Raw. Cook It Raw, donc cuisinez-le cru. Hein. Alors oui. Qu'est-ce que Cook It Raw et comment est-ce né ?
Alors, Cook It Raw, c'est plusieurs choses à la fois, mais ce que je tenais à dire, ce n'est pas un mouvement pour marier enfin la cuisine et la santé. Alors, certes, les cuisiniers ont beaucoup évolué. Il y a encore quelques décennies, ils arrêtaient les études en C3, ils voyageaient jamais. Aujourd'hui, ils ont appris à mieux s'exprimer, à mieux s'exporter, à travailler presque comme des VRP qui vendraient ou qui feraient passer une image médiatique, mais ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est clair, la notion de santé, la notion de nourriture, mieux être, mieux vivre, est encore totalement absente aujourd'hui dans les cuisines contemporaines.
Très, très concrètement, Andrea, Cook It Raw, pourquoi ? Donc, c'est né à Copenhague, dans la foulée au moment du sommet sur les changements climatiques en 2009. Comment est-ce né ?
Est né parce que Copenhague allait être le théâtre du summit sur le réchauffement de la planète et on a eu l'occasion d'organiser un repas pour accueillir les premiers politiciens qui débarquaient à Copenhague pour travailler sur ces sommets. Et on s'est dit qu'on avait peut-être une chose plus intéressante à faire, c'est de stimuler, de provoquer un certain nombre de cuisiniers que j'avais choisis au fil de mes envies et en tout cas de mon estime. On avait réuni 13 cuisiniers, 13 jeunes cuisiniers d'avant-garde.
Des noms. René Redzepi, notamment.
René Redzepi, puisque, évidemment, on était
meilleur cuisinier du monde.
Et dans son restaurant, il y avait Daniel Patterson de San Francisco, il y avait Albert Adrià, le frère de Ferran Adrià del Bulli, il y avait en France, il y avait Pascal Barbeau, le trajetoire du della Strance, ma aussi le formidabili Inakia e Spitart, le cuisinier d'Aubrion, probablement le cuisinier français le plus influent arrivé sulla scena francese depuis la mort prématurée d'Alain Chapelle le 10 juillet 90 à Avignon. Il y avait un certain
André, en deux mots, pardonnez-moi, mais l'émission est courte. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre. Cookie Throw, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement esthétique, c'est un... Qu'est-ce que... Cookie Throw, c'est un progrès dans la cuisine ou dans le fait qu'on ne cuit pas et qu'on n'émet pas du CO2 quand on fait la cuisine?
Cookie Throw, c'est un workshop. C'est un
atelier, en somme. Hein.
Des cuisiniers.
Un groupe de réflexion.
Un groupe de réflexion fait par des cuisiniers d'avant-garde qui se retrouvent une, voire deux fois par an dans des endroits choisis selon les occasions, selon les possibilités de pouvoir travailler. Et c'est une réflexion à la fois sur la cuisine, sur les techniques, sur la culture et les produits du pays en question. La chose importante, je peux dire de Cookie Throw, c'est que, je vais être vraiment très clair, c'est un peu comme Saint-Ignace de Loyola, qui préconisait dans cet exercice cruel une sorte d'élévation. L'important, c'est réunir ses cuisiniers et ne pas leur donner une liberté totale, mais donner un cadre, des contrôles.
C'est un tout petit peu, si on peut prendre une image pour expliquer un peu aux auditeurs. Vous avez vu le film Tous Into the Wild, c'est un petit peu ça, c'est un peu
non.
Le retour à la nature et au sauvage. Et comment, le premier défi qui était posé aux participants, Andrea, c'était comment préparer un plat en utilisant le moins d'énergie possible et en recourant à tout ce qui se trouvait à portée de main dans la nature, le sauvage, les baies, les herbes, les racines, tout ça, c'est juste.
Utiliser le moins d'énergie possible. Voilà. Alors, cookie throw, cuisiner cru, utiliser le moins possible d'énergie. Ça n'a pas empêché Albert Adrien de préparer un dessert en utilisant les micro-ondes pendant 8 secondes.
Et vous l'avez immédiatement, évidemment, exclu du groupe.
Pas du tout. Pas du tout. On a des cuisiniers qui ont fait des homards mi-cuits dans l'eau froide, donc en utilisant pas d'énergie. Albert Adrien qui utilisait les micro-ondes pour 8 secondes. Mais chaque fois, c'est différent. Pour la deuxième édition qui a eu lieu à la frontière entre l'Italie et la Slovénie, le thème c'était « Winter was hard », c'est-à-dire l'hiver fut rude. Et fut une invitation à composer des plats pour retranscrire les expériences, les sensations de l'hiver, les froids de l'hiver. Le troisième, ça s'appelait justement Into the Wild, comme le film de Schumpeter.
Et la prochaine, quel sera le thème de la prochaine rencontre?
On y travaille.
D'accord.
On vient de terminer les cookie throw au Japon, et pour la prochaine édition, on réfléchit, ce sera soit au Brésil, soit en Australie, soit peut-être même en Pologne.
D'accord.
Ces workshops sont ouverts au public, on peut assister à vos réflexions? Non.
Non, c'est impossible. Les workshops, au tout début, il y avait une cinquantaine de personnes qui pouvaient assister, qui pouvaient suivre les cookie throw, c'est-à-dire qu'on arrivait les quelques témoins arrivaient 3-4 jours avant les dîners finales pour être avec les cuisiniers lors de la cueillette, des récoltes, des moments de la chasse, des préparations, des études en cuisine. Mais un workshop, c'est forcément quelque chose d'intime.
De réservé. Voilà. Ben, on va vous suivre en tout cas sur le site, hein, cookietrow.org. Et puis on va revenir peut-être à des choses un peu plus grand public.
Merci Andrea d'avoir passé quelques
Merci
minutes avec
Andrea.
Nous. La ligne n'était pas très très bonne, mais je crois qu'on vous a entendu et on vous a surtout écouté avec passion. Merci Andrea.
Merci à vous.
Merci, à bientôt Andrea. Alors, Amy, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Donc, Into the Wild, c'est, C'est pas vraiment votre plan.
D'une certaine manière, oui, bien sûr. Ce qui est intéressant dans l'approche dont on vient de parler, c'est que ce sont des cuisiniers de grande renommée. On parle de haute gastronomie, mais en même temps, on veut essayer de se débrouiller avec ce qu'on trouve dans la nature. Donc ça, je trouve que cette démarche, elle est intéressante. C'est vrai que dans l'alimentation crue, on va vraiment privilégier les aliments naturels qui ont été le moins transformés possible. Et c'est une manière de dire non à tout ce qui est raffiné, tout ce qui est industriel et qui ne nous convient pas, qui contient tellement d'ingrédients et de substances qui ne sont pas bonnes pour le corps humain, même si ça peut être bon sur le palais, ça peut être bon, on aime bien manger ces choses-là, c'est pas celles qui vont nous soutenir à long terme.
Mais vous, le homard à l'eau froide, c'est pas votre tasse de thé, parce que c'est pas assez radical, enfin...
C'est pas ma tasse de thé, mais en même temps, si ça n'a pas été cuit, je pense que tous les nutriments présents dans le homard seront encore présents si ça a été préparé à l'eau froide ou à très basse température.
J'aimerais bien voir le homard à l'eau froide quand même.
Mais c'est dangereux, hein, il faut mettre des gants parce que...
Hein. Il n'est pas encore mort.
voilà, il va se défendre, le pauvre homard. Voilà. Mais alors, vous préconisez quand même de bannir la viande et le poisson.
Alors, entendons-nous bien, la tendance raw food qui vient des États-Unis et d'Angleterre est effectivement végétalienne, c'est-à-dire qu'elle a exclu toutes les protéines d'origine animale. Pour ma part, je n'applique pas le cru de cette manière. Donc, je ne suis pas végétalienne. Il m'arrive de manger encore de la viande, mais je vais privilégier une viande qui est locale, qui a été élevée, par exemple, comme le bœuf du Val d'Airain, qui a été élevé dans les traditions d'origine, avec un bétail qui est nourri, avec une alimentation naturelle, etc., sans fourrage, sans hormones et autres...
Donc, il vous arrive de manger un bon carpaccio de chevreuil.
Effectivement, si c'est sous la forme du carpaccio, alors ça va m'apporter beaucoup plus de vitalité, oui.
À propos de chevreuil et de carpaccio, il n'y a plus de danger lié au chevreuil sur l'autoroute hier dans Lausanne, voilà.
Voilà. Tant mieux.
Voilà. Il évite le carpaccio pendant quelques instants encore.
Donc vous proposez des cours.
Oui.
C'est plus structuré évidemment que
ça fait déjà 3 ans que j'offre des cours. Je suis basée à Morges. J'ai déjà enseigné environ 400 personnes en 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement qui se développe.
Il y a un vrai boom du cru quand même.
Il y a un boom du cru parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent tous les jours avec des intolérances, des incommodités. Ils sont pas toujours au top de leur forme. Et cette alimentation, une fois qu'ils l'ont testée, ils ont envie d'apprendre comment est-ce que ça se pratique. Et malgré les discussions sur le chevreuil, alors que soit bien clair, on parle surtout de fruits et légumes et de graines germées.
Mais ces fruits et légumes, on ne les trouve pas dans les supermarchés.
Bien sûr. Tous les fruits et légumes, saison, de production locale, idéalement, et de culture biologique, c'est encore mieux. Mais on rajoute des produits qui sont peut-être moins bien connus, des graines, certaines poudres, certaines racines qui peuvent venir des quatre coins du monde, qu'on a répertoriés comme étant des super aliments qui vont vraiment nous apporter une densité nutritionnelle dans un volume très très léger et restreint. Donc ça veut dire qu'on va se nourrir de moins d'aliments, mais des aliments qui vont être plus performants.
On va tester tout de suite, Jean-Charles.
Oui, mais il faut être militant pour manger ça. Par exemple, pour les enfants, vous arrivez à faire manger des
Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire manger aux enfants, bien entendu. Déjà à la base des
fruits.
En
les forçant, les tenant et les attachant.
Non, je peux témoigner que ces enfants, la fille d'Amy, là, mange très très bien. Là,
c'est vrai que ma plus jeune, qui a 10 ans maintenant, elle aimait beaucoup boire des smoothies vert quand elle avait 5-6 ans, c'est plus le cas aujourd'hui, mais les enfants passent par une phase, je pense qu'il faut respecter à chacun ses rythmes, mais manger beaucoup de fruits et beaucoup de crudités, est-ce que tout le monde peut faire, c'est tout un chacun, bien. C'est une voilà. bonne chose. Et commencer son repas par du cru, c'est aussi un bon conseil à retenir, parce que ça va faciliter la digestion de ce qui suit.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que je crois qu'on est beaucoup moins sectaire qu'on a pu l'être par le passé, avec justement tous ces mouvements, il y a l'instinctothérapie, etc., décrié. On est plus flexitarien aujourd'hui. Hein, on dit flexitarien. On
peut manger
comme on veut quand on
plus
veut.
Souple, hein,
dites-nous.
Plus
voilà,
ouvert,
on est plus
tolérant.
Voilà, on n'est pas obligé d'être à 100% dans le fond.
Bien sûr. Acceptons notre différence aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont intolérants au gluten, intolérants au lactose, qui tolèrent mal les protéines animales, qui sont végétariens pour des raisons éthiques. Donc c'est vrai, je pense qu'on arrive vers une société qui va être plurielle à tous les niveaux, et je pense que le cru a vraiment sa place et ça va se développer de plus en plus.
Il y a plus en plus de personnes qui sont allergiques au gluten, ou on s'en aperçoit maintenant plus qu'avant?
Je pense que c'est les deux. Il y en a de plus en plus, parce que les produits raffinés, la farine de blé raffinée devient de plus en plus plus difficile à digérer. Et on s'en rend compte de plus en plus parce que ça devient un sujet qui est bien traité dans les médias.
Alors, vous nous avez amené tout de suite. Bon, voilà, bon. Avec vous, vous allez nous présenter un petit peu ce que vous avez amené dans de très jolies petites verrines, Amy. Alors, d'abord, il y a un petit verre de lait de chanvre. Alors, c'est ça.
Lait de chanvre, hein, c'est une manière idéale de remplacer.
Un shot de lait de chanvre.
Voilà, oui, un shot.
C'est sûr que c'est autorisé, là, à
l'RTS. Absolument. À ne pas confondre avec la feuille dont on peut faire toutes sortes d'usages.
Ah, ça ne fait pas d'effet, ça.
Non, ça, c'est la graine. C'est la graine.
Dommage.
La graine de chanvre qui permet de faire pousser la plante de chanvre et donc de récolter les feuilles dont on a d'autres usages. Non, le lait de chanvre est très, très facile à faire. Remplace très bien le lait de vache. En général, c'est plutôt le lait d'amande qu'on utilise. Le lait de chanvre, c'est déjà assez avant-garde. Mais c'est la source de protéines végétales la meilleure dans la nature. C'est le chanvre.
Un petit goût d'amande, effectivement.
Et ça se prépare ou ça s'achète
Alors ça s'achète pas parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs chez nous.
Donc on fait son lait de chanvre.
On fait son lait de chanvre.
Comment le fait-on ?
Il suffit de tremper les graines de chanvre pendant quelques heures dans de l'eau. C'est pour réactiver les enzymes. Ensuite, on les mixe avec de l'eau. Et on filtre à travers un sachet à filtrer. Et on obtient ce lait. Là, j'ai rajouté
puis
aussi
ensuite,
un petit peu.
Et ensuite, elle germe et puis on les plante sur le balcon.
Non, elle germera plus une fois qu'elle est mélangée à l'eau. Non, non.
Mais ça nécessite tout un matériel quand même, hein, il faut bien dire.
Bah, disons qu'un mixeur.
Cette alimentation crue.
C'est
mixeur,
vrai. Si on veut aller très loin.
Pour les jus, etc. C'est juste.
Ah, oui. Vous avez rajouté quelque chose
Oui, j'ai rajouté de la vanille et des dattes.
La vanille quand même, d'accord.
Pour donner une arôme et pour sucrer.
Et de l'énergie aussi. C'est une bombe d'énergie.
Tout à l'heure.
Bon, je ne sais pas, il faudrait que j'en boive un peu plus.
Je ne vous sens pas très
convaincu. Non, si, si, c'est pas mal.
C'est très différent.
Ah oui, c'est assez différent.
Alors, ce que je vous ai apporté, c'est un genre de birchère, un birchère cru, qui est fait à base de flocons d'avoine, de graines de chia, qui sont des graines qui viennent du Mexique, qui sont très, très riches en oméga 3.
C'est un aliment magique dont tout le monde parle.
Voilà, on en trouve partout aujourd'hui. Ces petites graines qui sont vraiment miraculeuses, il suffit de les faire tremper, elles peuvent absorber énormément de liquide et elles vous apportent des bonnes protéines, des bonnes graisses, les oméga 3 dont on manque dans notre civilisation actuelle. Donc à manger sans modération. C'est fait avec du lait de chanvre aussi et de la pomme, des morceaux de pomme.
J'en le fais dans les.
Il y a de la pomme, de la pomme
bien
chez nous. De la vanille et de la cannelle. Voilà.
Écoutez,
ensuite de droite à gauche. Alors attends, qu'est-ce qu'on après les graines de chia on
Il n'y a jamais de sucre ajouté.
Alors jamais du sucre raffiné. Non, on utilise des fruits secs pour sucrer.
Fruits secs.
Alors là, vous avez un peu de miel pour sucrer. J'ai utilisé du miel. C'est
très bon, ça. C'est complètement comme un
miel cher
magnifique. Hein.
Tout à fait.
Un cher classique. Ensuite, alors, on passe au chocolat ou au petit dessert.
Alors, je vous ai apporté deux petites friandises, des vraies gourmandises, pour vous montrer que le cru, ça peut vraiment être gourmet aussi. Alors, vous avez la ganache au chocolat, un petit carré de
ganache
au chocolat. Bien sûr.
Mangez peut-être ça en dernier.
Non, torréfié.
Parce que c'est un goût qui est très puissant en bouche. Là, c'est le cheesecake au citron. C'est fait avec des noix de cajou. Et du jus de citron, du zeste de citron.
Ça, c'est pratiquement normal.
C'est pratiquement. Mais écoutez, vous verrez.
Deux couches. Donc, on a le cheesecake sur le dessus avec le petit citron, zeste de citron confit, c'est ça ?
Exactement.
Et en dessous, une espèce de masse.
Il y a un petit biscuit
dense,
en bas qui est fait avec des amandes mélangées avec des dattes. Tout simplement. Très facile à réaliser. C'est très riche, c'est pour ça qu'on en sert des toutes petites quantités. Mais je dois dire que tous mes proches qui ont goûté ça adorent.
Ça, c'est très bon.
Les autres choses
aussi sont délicieuses.
C'est vrai,
ça, c'est
un vrai
plus,
dessert. Ça
rappelle,
ça.
Voilà, c'est plus. Tout c'est moins exotique.
Voilà. Et puis alors, dites-vous bien qu'en mangeant ça, vous n'avez ni sucre, ni gluten, ni produits laitiers.
Alors, le goût très, très sucré, c'est quand même c'est du miel aussi, là, dans le gâteau.
Alors là,
dans
il y a du sirop d'agave. Il y a du sirop d'agave.
Voilà.
Qui est un sirop qui vient de la plante d'agave, du Mexique. Qui a
un glycémique tout ce qui est raffiné, voilà, tous les aliments très, très, très raffinés par des sirops de fruits.
Des ingrédients plus purs.
Et du miel.
Voilà.
Et la ganache pour terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons goûter ça hors antenne, puisqu'il faut que je passe tout de suite à l'information routière.
Infotrafic RTS.
Avec multimarque.ch, le réseau de garage, votre spécialiste en véhicules neufs.
Sur l'autoroute Yverdon-Neuchâtel, un accident perturbe la circulation entre l'échangeur d'Yverdon et la jonction d'Yverdon-Ouest en direction de Neuchâtel. Et dans la région de Lucerne, sur l'axe Bâle-Saint-Gothard, un bouchon s'étend sur 6 km entre Rothenburg et Lucerne-Centre en raison de travaux en direction du Gothard. Enfin, pour rappel, les travaux provoquent la fermeture de la route cantonale Yverdon-Yvonnant dans les deux sens entre Chezonoréa et Yvonnant, et ceci jusqu'au 12 mars. Les automobilistes sont priés de suivre la signalisation de déviation.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Merci Amy, merci d'être venue ce matin, merci de nous avoir fait goûter ces bons produits. Lucille, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes très produit et cru ?
Pas tellement, enfin ça dépend, les fraises, je les mange crues.
Oui, merci beaucoup pour cette précision. On parle de quoi dans Prise de Terre ?
On part dans l'ouest lausannois, grand dépaysement pour les Genevois.
Non ? Ah bah oui, ça, hein, oui. Faut se faire vacciner. Merci beaucoup.
L'heure avec Autoscout 24.